Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire, une bulle d'histoire très 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 spéciale, puisqu'on n'est ni avec un auteur de bande dessinée, ni avec un éditeur, ni un coloriste, ou une attachée, ou un attaché de presse, mais on est dans un cabinet d'avocats, très beau d'ailleurs. Je suis avec Jean Étoires. Première question, qui êtes-vous Jean ?
Alors, Jean Étoires, enchanté, bonjour à tous. Je suis avocat, je suis le fondateur et l'un des associés du cabinet Ox, qui est le cabinet dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ce cabinet, c'est un cabinet qui, dont je dirais la colonne vertébrale, c'est le droit d'auteur depuis toujours. C'est devenu un cabinet assez important par la taille et par la diversité des activités qu'il a aujourd'hui. Mais l'ADN fondamental, c'est les auteurs, les créateurs, les producteurs, les éditeurs, tous ceux qui interviennent dans les domaines de la création, parce que je dis bien les, parce que c'est des secteurs très très cloisonnés, voilà. Et donc le cabinet est l'un des rares, si ce n'est le seul, qui a la chance ou la particularité d'intervenir dans presque tous ou tous les secteurs de la création. Ça va de la musique, l'audiovisuel, cinéma, télé, jeux vidéo, édition littéraire, BD, on va en parler, presse, et j'en ai oublié quelques-uns, marché de l'art. Voilà.
Okay, ouais. D'ailleurs, j'invite ceux qui ont les comptes LinkedIn à vous suivre, parce que vous publiez régulièrement plein d'infos, donc ça va du design, de l'art, du droit de la presse, tous les domaines dont vous avez cité, et à chaque fois vous publiez des choses très intéressantes, c'est plus qu'intéressant, parce que ça montre d'abord que le droit est partout, et que le droit est nécessaire pour se protéger, c'est ça qui est
important. Oui, absolument. Dans les secteurs de la création, c'est même nécessaire pour avancer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer sans, à un moment donné, être confronté à des questions de droit qui sont des questions de droit assez pointues. Le droit est une science molle, il y a des juges à un moment donné, c'est une science humaine, et qui doit s'adapter à quelque chose qui est encore plus mou, d'une certaine manière, qui est l'art ou la création, qui est encore plus difficile à appréhender, et donc... C'est un secteur particulièrement intéressant de voir comment le droit se confronte à l'art et comment l'art se confronte au droit. Oui, on aime bien publier, alors que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram aussi d'ailleurs. Essayer d'être aussi pertinent que possible, c'est-à-dire pas répondre forcément à des questions que les gens se posent, mais d'une certaine manière révéler des questions que les gens ne se posent pas et puis apporter un début de réponse.
Non, en tout cas, c'est pédagogique et à chaque fois, moi, je dis ça avec plaisir. Donc on va parler de droit d'auteur et bande dessinée, il y a plein de questions qui agitent notamment les auteurs, il y a des questions qu'on ne va pas aborder forcément sur les rémunérations, sur ce genre de choses, sur la retraite des auteurs, parce que ça on en a pour des heures et des heures. Ma première question c'est, du point de vue du droit d'auteur, quelle est la différence, parce que c'est un peu à la fois un fantasme et il y a beaucoup de choses qui circulent, qui sont fausses, la différence entre le droit d'auteur français et le droit d'auteur anglo-saxon, par exemple.
Alors, déjà, on pourrait passer des heures là-dessus.
Aussi.
Voilà, absolument. Donc, en fait, il y a une distinction fondamentale qui se fait pour les juristes de propriété intellectuelle entre le droit romain, le droit français notamment, le droit d'auteur français, et ce qu'on appelle le copyright, droit de copier ou droit de reproduire. Le copyright, donc, anglo-saxon, essentiellement américain, est un système un peu différent. Alors, fondamentalement, il y a des créateurs et des exploitants, exploitants au sens positif du terme, hein, donc des éditeurs ou des producteurs. Mais en droit français, les deux grandes différences, hein, c'est en droit français, il y a un principe fondamental de rémunération proportionnelle de l'auteur. C'est-à-dire qu'on a beau tortiller dans tous les sens, sauf... Il y a des exceptions assez nombreuses, mais des exceptions qui tiennent aux ouvrages scientifiques, aux contributions accessoires de l'auteur à une œuvre plus vaste, etc., etc. Mais un auteur de BD, que ce soit le dessinateur ou que ce soit le scénariste, on ne peut pas ne pas le rémunérer proportionnellement. Proportionnellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire proportionnellement au résultat de la vente. Et mieux encore, en droit français, et parce qu'on a un prix du livre, on doit le rémunérer proportionnellement au prix public pratiqué. D'accord, on laisse de côté pour l'instant les exploitations digitales. Oui. Mais voilà, donc c'est fondamental. Donc ça ne veut pas dire que c'est beaucoup d'argent. Ça veut juste dire que l'auteur doit nécessairement être intéressé à la réussite de son projet, de sa création. En droit américain, en copyright, c'est pas le cas. On peut acheter forfaitairement des droits d'auteur. On peut même, je dirais, acquérir les droits d'auteur à la source par ce qu'on appelle le work made for hire, qui est une formule où je dirais, l'éditeur devient pratiquement l'auteur. On a une sorte d'équivalent en droit français, mais pas du tout en matière de BD. On a un équivalent qu'on appelle l'œuvre collective. Pourrait éventuellement exister en bande dessinée, mais voilà, dans des hypothèses que je laisse de côté. Donc la première différence, c'est rémunération proportionnelle obligatoire et système libre, je dirais, en droit américain. Deuxième grosse différence, c'est qu'en droit français, on distingue ce qu'on appelle le droit patrimonial et le droit moral. Le droit patrimonial, c'est ce qui entre dans le patrimoine comme son nom l'indique, et c'est le droit d'autoriser ou d'interdire une publication. Donc c'est le droit de céder ses droits ou de ne pas les céder, en gros. Bon, ça existe en droit américain, l'auteur est l'auteur, tant qu'il n'a pas cédé ses droits, il a ses droits. Et lorsqu'il les a cédés, alors il est totalement dépossédé de son œuvre. En droit français, il n'est dépossédé que patrimonialement, il conserve, je dirais, une espèce de propriété morale, en tout cas un droit qui va suivre l'œuvre partout, et qui est ce qu'on appelle le droit moral, c'est le droit d'être toujours cité avec son œuvre, et sa qualité, un scénariste, un tel, dessinateur, un tel, on ne peut donc pas publier une bande dessinée sans citer l'auteur, et par ailleurs, un droit encore plus important qui est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, donc au respect de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, on ne peut pas déformer l'œuvre, y apporter des modifications, la modifier d'une quelconque manière sans l'autorisation de l'auteur. La grande particularité de notre droit là-dessus, c'est que ce droit moral ne se cède pas. C'est-à-dire que l'auteur, quand bien même il voudrait dire à l'éditeur « Vous faites ce que vous voulez de mon œuvre, vous pouvez la publier sous n'importe quelle forme, etc. etc. », en réalité, il ne peut pas se départir, enlever ce droit moral. Ça n'existe pas, ou très, très marginalement, en copyright. En fait, on retrouve dans la conception juridique du droit d'auteur ce que l'on connaît de manière caricaturale quand on compare les systèmes globaux américains et les systèmes français, c'est-à-dire un système très protecteur dont les Américains vont considérer qu'il est déresponsabilisant, et un système très libéral aux États-Unis, dont les Français vont considérer qu'il n'est pas très protecteur.
Est-ce que les auteurs de bande dessinée ont le même statut que les auteurs de littérature générale?
En France?
Oui.
Donc il y a quelques différences, il y avait quelques différences, notamment sociales, parce que il y avait ce qu'on appelait la GESA, la Maison des Artistes, etc., etc. Donc il y a quelques organismes qui sont un peu différents. Mais sinon, le statut est le même. Les uns et les autres sont des auteurs, au sens du droit d'auteur, que ce soit le dessinateur ou le scénariste dans la bande dessinée, ou que ce soit l'auteur de romans dans la littérature classique.
Donc, si j'ai bien compris, un éditeur ne peut pas se mettre à faire des expositions dans des gares ou autres si l'auteur n'est pas d'abord au courant et s'il n'est pas rémunéré.
Alors, autre question. Il y a d'abord s'il n'est pas au courant, s'il n'est pas rémunéré. En fait, on ne peut pas exploiter l'œuvre d'un auteur sans qu'il ait cédé les droits correspondants. Donc il faut qu'il ait donné l'autorisation quoi qu'il arrive. Ça, c'est le droit patrimonial. D'accord ?
Ça peut être à titre gratuit. C'est
pas... Ah, ça peut être à titre gratuit. S'il a envie d'autoriser à titre gratuit l'exploitation de son œuvre, il a le droit. Après, il y a certaines limites formelles qui sont qu'une vraie autorisation à titre gratuit est une donation. Un auteur qui ferait une autorisation, qui délivrerait une autorisation gratuite à un éditeur, lui ferait une donation, je pense qu'il faudrait passer par un notaire pour ça. Mais l'auteur qui autorisera à utiliser une photo pour illustrer une petite publicité pour votre activité personnelle, ou qui autorisera d'utiliser un bout de texte pour illustrer votre site internet, peut très bien le faire à titre gratuit. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'auteur signe un contrat, et par ce contrat, il transfère ses droits à un tiers, qui est l'éditeur, et à qui il confie le soin d'éditer. L'éditeur ne prend pas que le droit d'éditer la bande dessinée. Il prend le droit d'éditer la bande dessinée et tout ce qu'on appelle les droits secondaires et dérivés. Primaire, c'est l'édition de la bande dessinée. Secondaire, c'est l'édition sous d'autres formats. Donc vous avez l'édition cartonnée, puis après vous allez avoir l'édition poche, des éditions qui peuvent être des éditions secondaires de toutes sortes. Puis après vous avez les droits dérivés. Les droits dérivés, ça va être notamment le merchandising, les cartes postales, les affiches, etc., etc. Et donc, il va prendre notamment les droits d'adaptation audiovisuelle, d'adaptation théâtrale et potentiellement d'exposition. D'accord ? Sauf que, donc, soit le contrat le prévoit, et dans ces cas-là, l'éditeur est bien investi de ses droits, soit le contrat ne le prévoit pas et l'éditeur ne peut pas faire ça. Et si il est investi de ses droits, il doit alors réserver une rémunération proportionnelle. Voilà. Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, est-ce que j'ai bien compris, vous évoquiez peut-être le problème du droit moral. Si l'éditeur veut faire une exposition dans une gare, passe encore, mais sponsorisée par la SNCF ou une exposition SNCF ou une exposition pour des trains ou dans des trains SNCF qui serait une exposition promotionnelle pour la SNCF, alors il y a une atteinte au droit moral parce que l'œuvre est détournée, voilà. Et là, il y a une atteinte au droit moral. Donc l'éditeur ne peut pas.
C'était ça ma question. Mais en même temps, la
réponse était peut-être un peu longue.
Non, mais elle était parfaite parce que je n'avais pas pensé à tout ce que vous avez dit avant. Il y a une autre question qui se pose dans la BD depuis quelques années, c'est le statut des coloristes. Parce que donc, il y a des dessinateurs qui sont des grands ou des très bons dessinateurs, mais qui sont souvent soit de piètres coloristes, ou soit des gens qui n'ont pas le temps de faire la couleur de leurs albums. Mmh. Donc maintenant, on emploie des coloristes. Et les coloristes sont un peu exclus du statut d'auteur. Ils sont souvent pas sur les couvertures, les contrats sont différents, leur rémunération n'est jamais proportionnelle.
Oui.
Elle est toujours forfaitaire à la planche. Comment ça se passe pour des gens comme ça? C'est pas eux qui créent, mais ils sont d'une certaine façon co-créateurs.
Alors, là, quand je disais tout à l'heure, le droit est une science molle, et alors le droit d'auteur particulièrement, c'est une science très molle, on est précisément dans la zone grise, ou dans le ventre mou. Pourquoi on est dans la zone grise? Parce que le droit d'auteur s'applique au créateur d'une œuvre, à l'auteur. Pour qu'il y ait un auteur, il faut qu'il y ait une œuvre protégeable au sens du droit d'auteur. Pour qu'il y ait une œuvre protégeable au sens du droit d'auteur, il faut qu'il y ait une création originale. C'est ça que c'est le mot qu'on utilise, qui n'est d'ailleurs pas dans le code. Création originale, personne ne sait bien le définir. On dit une création est originale lorsqu'elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ce qui est un blabla incompréhensible. Donc personne ne sait ce qu'est exactement une œuvre. On le perçoit, en fait, c'est l'expression de l'arbitraire de l'auteur. C'est quand l'auteur a fait des choix qu'un autre n'aurait pas fait. D'accord ? Quand on dessine une chaise, si on lui met quatre pieds, a priori, c'est pour qu'elle tienne debout. Donc c'est pas un choix d'auteur. En revanche, si on décide de faire un dossier en tête de lion, alors c'est un choix arbitraire, parce qu'on aurait pu faire un dossier en tête de chien ou un dossier qui n'a pas de tête du tout. Un dessinateur de BD, incontestablement, fait des choix arbitraires. Il a sa plume, il a sa façon de dessiner. Hergé dessinait Tintin d'une certaine manière, Uderzo l'aurait dessiné d'une autre. Ces personnes-là sont des auteurs. Ils sont des auteurs et leur création est originale. La question fondamentale du coloriste, c'est 1. Est-ce que sa création, son apport créatif est original ou pas? S'il ne l'est pas, alors il est technicien. De la même manière que le photograveur ou celui qui va dire « bon bah en fait, on va réajuster un peu, on va poser la bulle plutôt là que là », voilà. Il n'intervient pas vraiment dans la création. Deuxièmement, on peut dire que son intervention est originale, donc qu'il y a un apport créatif, mais que cet apport créatif est secondaire, accessoire. Alors, il a bien le statut de co-auteur, mais d'un co-auteur de second rang, dont on n'aura pas l'obligation de rémunérer proportionnellement. Et là, on peut le rémunérer forfaitairement. Et puis, il y a l'hypothèse d'un coloriste de génie qui va transformer profondément l'œuvre et dont on pourra dire, mais en fait, il a un apport majeur dans l'œuvre. Et honnêtement, je crois que c'est le cas d'un certain nombre de coloristes. Voilà, moi, j'ai vu des coloristes, notamment aux États-Unis, absolument déments, coloristes de Frank Miller. Mais on voit les dessins de Frank Miller, on les connaît bien. Colorer, ça n'a plus rien à voir, ou coloriser, je sais pas comment on dit, ça n'a plus rien à voir. Donc, pour moi, ce coloriste a un apport fondamental dans l'œuvre, et il devrait être reconnu comme co-auteur à part pleine et avoir une rémunération proportionnelle. Bon, les éditeurs font le choix soit de le traiter comme technicien, soit de le traiter comme un co-auteur de second rang, pour des raisons essentiellement d'opportunité, puis aussi pour des raisons politiques. Aller dire à celui qui crée l'histoire, et qui est donc indispensable à cette histoire, ton coloriste va partager avec toi l'enveloppe de droit, ça pose des problèmes. Donc ce sont les auteurs eux-mêmes qui, quelque part, potentiellement privent les autres auteurs de leur statut d'auteur, ou d'un statut d'auteur plein. D'accord ? Donc l'éditeur ne peut pas faire n'importe quoi, et dans cet équilibre subtil, eh bien, pour le moment, l'éditeur préfère sacrifier le coloriste. Par ailleurs, parfois, n'a pas forcément un impact, je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, mais il n'a pas un impact majeur aux intérêts des autres.
Une autre question qui se pose beaucoup dans la BD, notamment ça tourne autour de la figure de Tintin, c'est la notion de plagiat. Parce que jusqu'à présent, tous les artistes, dessinateurs, plasticiens qui utilisaient Tintin étaient systématiquement attaqués par les éditions
Moulin-Sart.
Moulin-Sart gagnait à chaque fois.
Oui.
Là, dernièrement, il y a eu un jugement. On voit un Tintin assis à côté d'une femme, donc on voit les fesses. Donc évidemment, Moulin-Sart a attaqué, et là, ils ont perdu.
Oui.
Pourquoi ils ont perdu sur cette image-là, si vous le savez? Et quelle est la notion de plagiat? Pourquoi Moulinsart et je dirais, je peux justifier ces attaques permanentes contre les auteurs qui utilisent Tintin.
Oui.
Alors... On ne parle pas de jugement de valeur sur l'attaque. Hein,
Non. Il y a eu... Alors, premièrement, pour répondre clairement à la question, on sait que la succession Hergé est très, très, très pointilleuse, très regardante et défend une œuvre qui a été conçue comme un sarcophage. Hergé a dit « Jamais mon œuvre ne vous reliera plus, ça se termine comme ça », ce qui n'est pas le cas. Enfin, ce qui aurait pu être le cas d'Astérix, pour comparer ce qui est un peu comparable, ce qui n'est finalement pas le cas. Astérix, ils ont réussi à trouver une solution pour poursuivre. Donc Moulinsart est très regardant, et c'est souvent le cas d'ailleurs des ayants droit. Premièrement, donc ils ont une propension à attaquer assez souvent. Deuxièmement, le droit d'auteur a été conçu comme quelque chose d'assez absolu en droit français, droit belge, hein, c'est à peu près le même droit. Et donc, l'idée, c'est de dire, l'œuvre ne peut pas être reproduite ou diffusée sans l'autorisation de l'auteur. Quand on dit reproduite, c'est reproduite entièrement ou reproduite partiellement. Donc le fait, Tintin a des caractéristiques qui ont été inventées par Hergé, le pantalon de golf, les chaussettes, les chaussures, l'épi, la couleur des cheveux, la forme de la bouille, la forme du nez, etc., etc. Toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques, on en parlait tout à l'heure, qui font l'originalité du personnage. Donc le fait de reprendre ces caractéristiques, même si ce n'est pas une copie servile, hein, mais le fait de reprendre ces caractéristiques en imitant ces caractéristiques, c'est pas... Techniquement, pas forcément un plagiat d'ailleurs, mais une contrefaçon. Ou un plagiat, c'est souvent
une contrefaçon.
D'accord ? Après, il y a deux exceptions fondamentales, ou deux bémols, je dirais. Il y a l'exception de parodie, d'accord ? Qui a une tendance à s'ouvrir, et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc l'exception de parodie, c'est dire, je recopie l'œuvre, mais j'en fais une critique, ou je la tourne en ridicule, ou voilà. Et donc le but, c'est de faire rire aux dépens de cette œuvre, et dès l'origine, ou très tôt, je veux dire, dans le droit d'auteur français, on a accepté ça. On a dit, en fait, on ne doit pas figer l'œuvre, on ne doit pas non plus la mettre sur un piédestal. Il faut qu'elle puisse être manipulée par des tiers dans un but qui est le but de la critiquer, etc. Elle est ouverte à la critique. Donc, il y avait une idée de liberté d'expression, déjà, dans l'exception de parodie, qui est une exception qui est dans un texte expressément établi. Et puis, récemment, ça date de... il y a une dizaine d'années, je dirais, au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne a ouvert une porte qui est un truc dont on parle peu pour l'instant, mais qui va devenir majeur dans notre droit, c'est la liberté de création, la liberté d'expression artistique, pour être précis. Et la Cour est venue dire, attention, la contrefaçon, certes, oui, mais vous devrez arbitrer avec la liberté d'expression créative de celui qui a détourné. Non plus sur le terrain du « est-ce que c'était drôle, pas drôle », mais est-ce que l'œuvre seconde mérite d'exister au regard des droits exclusifs de l'auteur de l'œuvre première. Donc en fait, on est venu dire, maintenant, un auteur d'une œuvre seconde peut reprendre une œuvre première pour créer une œuvre seconde, pour autant que là, on ne sait pas ce que veut dire les juges pour l'instant, on est en train de tâtonner, donc moi j'ai des procès un petit peu à foison là-dessus. On ne sait pas ce que veut dire le pour autant et ce qu'il y a derrière, mais moi je pense que c'est pour autant qu'il y a une œuvre seconde qui transcende l'œuvre première, qui se sert de l'œuvre première comme un marchepied pour créer une œuvre seconde différente, nouvelle, etc. Donc il y a des exemples partout, hein, je veux dire, Picasso a repris... un certain nombre d'œuvres, un certain nombre d'artistes ont repris des œuvres de Picasso, Warhol, le ready-made, etc. Donc on a, historiquement, il y a des exemples très connus, hein, ne serait-ce que le Déjeuner sur l'herbe, qui mixait deux créations antérieures. Voilà, donc il y a plein d'exemples d'artistes qui ont repris. Voilà, je vois Héro, par exemple, qui reprenait de la bande dessinée et qui intégrait dans des tableaux des extraits de bande dessinée. Donc personne n'a considéré, ça n'a pas été jugé. Mais le marché de l'art, le marché en général, et les BDistes ont toujours considéré que Héro pouvait réinterpréter ses BD sous forme d'œuvres d'art. On était déjà dans la liberté d'expression, mais de fait, et maintenant, cette exception, elle existe en droit. Donc c'est super intéressant, ça va bouger complètement toutes les frontières du droit d'auteur. Donc là, on est en plein dedans, c'est absolument passionnant.
Quand les gens vont attaquer maintenant, il faudra qu'ils aient des arguments encore plus puissants que...
Oui, il va falloir. C'est-à-dire qu'ils vont dire la contrefaçon existe. Ils vont devoir d'abord dire. En fait, le procès en contrefaçon, c'est ça. Hein. C'est un, je démontre que mon œuvre est originale, c'est-à-dire qu'elle a accès aux droits d'auteur, c'est-à-dire qu'elle est protégée par les droits d'auteur. Un. Donc cette démonstration, elle n'est pas facile à faire. Deux, je démontre que l'œuvre seconde reprend les éléments originaux de l'œuvre première qui méritent que l'œuvre première soit défendue. D'accord ? Donc ça, c'est assez compliqué. Et ça, c'était déjà c'est déjà un pinceau quand vous agissez en contrefaçon. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Et pour des auteurs qui ont raison, c'est vraiment difficile pour eux de dire, mais comment ça, je dois justifier que mon œuvre est une œuvre, puis ensuite, je dois justifier que l'œuvre, qui est évidemment une copie, est une copie. Et troisièmement, maintenant, celui qui a copié va pouvoir dire, mais attendez, j'ai copié, mais dans le cadre de l'expression de ma liberté d'expression, dans le cadre de l'expression de mon art, et moi, je vais vous apporter la démonstration que mon œuvre mérite d'exister et que elle avait besoin de puiser dans l'œuvre première pour exister. Typiquement, je vais vous donner un exemple qui est intéressant, c'est Orlan qui a repris l'origine du monde. L'origine du monde, c'est sexe de femme offert, comme ça. On ne voit pas le visage de la femme. Elle a repris à l'identique le tableau de Courbet, sauf qu'elle a changé le sexe de la femme par un sexe d'homme en érection. Et elle a appelé ça l'origine des guerres. L'œuvre est à l'identique, il y a cette modification simple. Eh bien, il n'y a pas eu de procès, mais j'ai plaidé cet exemple en disant « On est typiquement dans une œuvre qui transcende une œuvre première. Le message, l'origine des guerres, n'aurait eu aucun sens si ça n'avait pas été puisé dans l'origine du monde. » Donc on avait besoin de l'œuvre de Courbet, on avait besoin que cette œuvre soit mondialement connue, reconnue par tous, que son titre soit connu, pour que le détournement par Orlan ait un sens et puisse avoir une portée. Et donc cette portée, après on trouve ça beau, pas beau, intéressant, pas intéressant.
C'est pas le problème. Oui.
C'est pas le sujet. Donc cette œuvre, pour moi, s'il y avait eu un procès de Courbet contre Orlan, il y a 10 ans, Orlan le perdait. Aujourd'hui, Orlan le gagne sans aucun doute. C'est ça qui va faire que les actions Hergé Moulin-Sarr vont potentiellement s'émousser ou se heurter à des obstacles assez importants.
Quelle est la place d'un auteur, donc on parlait d'Astérix, qui reprend un personnage? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont repris les personnages de Jacobs, là maintenant Astérix, il y a des gens qui ont repris les personnages de Jacques Martin, Alix et compagnie.
Ouais.
Tous ces auteurs sont évidemment sous la loupe, soit des ayants droit, comme Jacques Martin, il y a le comité Martin qui sont les enfants, qui surveillent que les auteurs d'Alix respectent bien des codes.
Ouais.
Astérix c'est pareil, Jacob c'est pareil. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, l'auteur qui reprend un personnage, que ce soit le scénariste ou le dessinateur, est-ce qu'il ne devient pas lui-même quasiment co-auteur de l'œuvre d'origine?
La réponse est non. Il ne devient pas à force co-auteur de l'œuvre d'origine. Il est l'auteur de son œuvre. Il y a un texte qui est l'un des plus, permettez-moi l'expression, foireux du Code de la propriété intellectuelle. C'est l'un des plus courts et plus mal rédigés. C'est L113-4, qui est un texte qui parle de l'œuvre composite, où on parle aussi d'œuvre dérivée. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui intègre une œuvre préexistante. Donc typiquement, lorsqu'on reprend Astérix, et qu'on fait un nouvel épisode ou un nouveau chapitre, on reprend bien le personnage d'Astérix Obélix, les histoires anciennes qui viennent se greffer là-dedans, la concurrence entre le poissonnier et le boucher, le chef, le machin, l'amoureuse, le truc, tout ça se retrouve dans l'ensemble, et puis on vient greffer là-dessus une nouvelle histoire dans laquelle tous ces éléments préexistants viennent interagir. Voilà. Donc il y a l'œuvre première qui est intégrée dans l'œuvre seconde, de la même manière que on fait un film à partir d'un livre. Il y a bien une partie du livre qui est dans l'œuvre seconde. Donc le texte dit quoi? Il dit l'auteur de l'œuvre seconde, de l'œuvre dérivée ou de l'œuvre composite, il n'est pas l'auteur de l'œuvre première, ça c'est sûr, et il n'est propriétaire de l'œuvre seconde que dans la mesure de ce qu'il a créé et de ce qu'il a apporté, et sous réserve de l'accord de l'auteur de l'œuvre première. Donc ça donne quoi? Ça donne que Astérix, les auteurs des nouveaux épisodes, ne sont auteurs de ce qu'ils ont greffé à l'œuvre première. D'accord. Alors, ils sont auteurs de l'épisode, hein. Ils sont auteurs de tout l'épisode. À l'intérieur de cet épisode, il y a des éléments préexistants qui resteront toujours la propriété du Derzo et de Goscinny. Et puis, il y a des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux, alors là, on peut aménager contractuellement. Soit on dit qu'ils appartiennent bien aux nouveaux auteurs, soit on dit qu'ils sont captés par les auteurs de l'œuvre première qui en deviennent propriétaires. Voilà. Et ça, c'est l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première qui va dire oui ou non.
Du point de vue du droit moral, on va appeler ça comme ça, le droit moral, il n'appartient qu'aux auteurs de l'œuvre première.
Non, sur l'œuvre seconde, il appartient à l'auteur de l'œuvre seconde et à l'auteur de l'œuvre première. Donc, admettons par exemple que quelqu'un veuille faire l'adaptation cinématographique du dernier Astérix. Il devra obtenir l'autorisation de l'éditeur, évidemment, puisque c'est lui qui est propriétaire de ses droits, et l'éditeur va se tourner vers tout le monde. Les héritiers Goscinny, l'héritière Uderzo, et l'auteur du nouveau scénario et l'auteur et le dessinateur. Autorisation qu'ils auront potentiellement prénégociée, et tout le monde sera rémunéré dans des proportions qui sont préétabli. Donc l'adaptation, l'adaptation et le droit moral va appartenir à tout le monde.
Mais ça, c'est valable uniquement si le nouvel auteur reproduit le personnage tel quel. Parce que par exemple, il y a des Lucky Luke qui sortent. Le Lucky Luke, à part la couleur du costume et le chapeau, totalement changé.
Alors, mais oui, c'est un peu comme les Batman ou ce genre de choses. Mais alors. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une différence d'intensité, mais la règle reste la même. Parce que Lucky Luke, ça n'est pas qu'une chemise jaune et un chapeau blanc. C'est aussi tout un contexte historique, donc c'est quand même un cow-boy. Et puis c'est celui qui tire plus vite que son ombre. Et puis voilà, donc il y a deux possibilités. Soit la personne qui reprend le Lucky Luke fait un Lucky Luke dépravé, fumant le joint, couchant à droite à gauche, etc., etc. Et dans ces cas-là, on sera dans une qui pourrait être une parodie ou dans la liberté d'expression. Dans ces cas-là, il n'a pas d'autorisation à demander, on peut le faire. Soit on est dans un Lucky Luke qui reprend l'histoire de Lucky Luke et qui reprend les éléments de l'histoire et qui s'inscrit dans cette suite, quand bien même il serait dessiné par quelqu'un de manière différente, avec un style différent. Mais le style, c'est pas l'œuvre, hein. Le style, c'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est quand même quelque chose d'assez objectif. C'est couleur de la chemise, jean, bottes, et puis c'est pas un cumul de tout. C'est un certain nombre d'éléments. Il suffit qu'il y ait les éléments qui rendent reconnaissable le personnage pour que voilà, ce soit ça. Le niveau de déformation qu'on apporte n'est pas déterminant. Ce que les Américains appellent les licences, c'est ça. Hein. On peut pas reprendre Batman sans passer par DC. Il faut passer par DC Comics et leur demander l'autorisation, même pour faire un Batman de Frank Miller, parce qu'on en parlait tout à l'heure, qui a quand même rien à voir avec le Batman d'origine. Mais il y a le père et la mère qui meurent, il y a tous ces éléments, il y a Gotham, complètement réinterprété, il y a quelqu'un qui se déguise en chauve-souris, il est bien noir. Y a, voilà. Donc on retrouve les éléments.
Il y a une chose qui trouble beaucoup les dessinateurs, c'est le problème de la vente des dédicaces. Alors ça peut paraître totalement ridicule, mais dans les salons, des choses comme ça, ils font des dédicaces, des gens qui font la queue.
Ouais.
Et se plaignent souvent, à juste titre, après on peut discuter de ça, qui retrouvent leurs dédicaces en vente sur eBay ou sur des sites. Est-ce que quand on a une dédicace, est-ce qu'on peut la vendre dans n'importe quelle condition, n'importe quand, n'importe quel prix, ou est-ce que l'auteur a le droit de dire, hey, toi, Coco, tu peux pas la vendre à ce prix-là?
Alors.
Ou bien tu dois me reverser quelque chose?
Alors, réponse rapide. C'est pas un problème de droit d'auteur. Pourquoi c'est pas un problème de droit d'auteur? Parce que quand on vend une dédicace, on ne vend pas les droits de l'auteur. On vend un bouquin avec dedans un dessin, c'est-à-dire de l'encre sur du papier. Donc on vend des bouts de papier avec de l'encre dessus. De la même manière que quand on vend un tableau, on ne vend pas les droits de l'auteur, on vend de la toile avec de la peinture dessus. Donc on vend un bien meuble corporel. Or ça, le propriétaire du livre dans lequel il y a dessin, et donc le propriétaire du dessin, c'est bien celui qui le vend. Et il a le droit de le vendre. C'est un droit absolu, droit de propriété, c'est notamment le droit de vendre. Même le droit de détruire. D'accord ? Bon, enfin, je vais un tout petit peu trop loin. Mais en gros, celui qui est propriétaire d'un dessin de n'importe qui, que ce soit une dédicace, un vrai dessin, enfin un dessin à part entière, ou même une page de BD, d'accord, originale, peut la vendre librement. Alors, est-ce que dans ces cas-là, l'auteur ne doit pas être rémunéré? Il devrait l'être, normalement, par le biais de ce qu'on appelle le droit de suite, parce que pour les œuvres, justement, plastiques et graphiques, or, un dessin, je ne parle pas de la BD, hein, la BD, c'est un dessin sur une feuille, c'est bien une œuvre graphique pure, alors il y a un droit de suite, c'est-à-dire qu'il y a un droit qui est de 4, 3, 2%, 1%, selon le montant de la vente, etc. Et donc quand il y a un RG qui passe, ou quand il y a un Moebius qui passe en salle des ventes, par exemple, il y a bien un droit de suite qui est appliqué sur le dessin, que ce soit une dédicace ou pas. Donc malheureusement, non, l'auteur de la dédicace ne peut rien faire, sauf à écrire « ne peut pas être vendu »
sur le dessin
ou sauf à ne pas dessiner. C'est aussi la solution, c'est de voilà.
Mais voilà. Alors, autre problème sur les dédicaces avec le Covid, c'est développer un système de dédicaces par correspondance, c'est-à-dire que les gars qui achètent des bandes dessinées les envoient soit à l'auteur ou soit il y a des petites structures qui se sont montées, ils payent les sommes sont pas très grandes, hein, mais ils payent l'auteur pour avoir un beau dessin sur leurs albums et ensuite ils reçoivent l'album chez eux. Mmh. Sauf qu'il y a des scénaristes, que je connais d'ailleurs, qui râlent parce qu'ils expliquent, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le dessinateur qui touche et nous qui avons créé ou co-créé la bande dessinée, qui a fait le succès de la bande dessinée, pourquoi nous on n'a pas le droit de toucher sur cette somme ? Est-ce qu'ils sont légitimes à réclamer ça ?
Alors, il n'y a pas de légitimité économique, il n'y a pas de légitimité juridique, parce que c'est bien ce qui est le consommateur a bien d'abord acheté la BD. Et en achetant la BD, il a généré un revenu au titre des droits d'auteur entre les mains et du dessinateur et de l'auteur du scénario. Après, ce propriétaire d'un livre vient voir une personne qui se trouve être le dessinateur et non pas le scénariste pour que le dessinateur lui fasse un dessin dans le livre. Et ce que vend le dessinateur à ce moment-là, ce que vend la plateforme, ce que vend n'importe qui, ou ce que vient chercher en tout cas le propriétaire en question, c'est un dessin et rien d'autre, puisque la BD, il l'a déjà. Donc pour moi, l'auteur du scénario n'a pas participé, je dirais, à la valeur économique de ce qui va être vendu à cette occasion. Après, économiquement, la logique, elle est quand même de dire, c'est vrai que le succès global du projet repose autant sur le scénariste que sur le dessinateur, enfin, en tout cas, par principe, on va dire. Et donc, c'est vrai que quand il y a des revenus connexes, mais qui ne sont pas des revenus qui proviennent de l'œuvre, qui sont des revenus connexes, qui sont générés, je dirais, par ruissellement, comme on dirait.
C'est d'autres produits dérivés, quoi.
C'est même pas des produits dérivés, parce que c'est bien le dessin qui est vendu. Ce serait une figurine de personnage, on dirait, c'est un truc extrait de la BD, voilà. Mais là, c'est un dessin complètement autonome. Je dois admettre que si le dessin en question, c'est un dessin qui est extrait du livre, ou qui est une repompée du livre, l'auteur du scénario pourrait dire « ce dessin est une contrefaçon de la BD ayant été créée par deux auteurs ». Parce que ça, c'est intéressant. L'auteur des dessins n'est pas auteur des dessins, et le scénariste auteur du scénario. Dans une BD, l'œuvre finale, c'est la BD. Et le scénariste et le dessinateur sont co-auteurs d'une BD. Donc, le dessinateur n'est pas nécessairement propriétaire de ses dessins et le scénariste propriétaire de son scénario. Ils sont tous les deux propriétaires des deux. Voilà, je module un peu. Mais la réalité, c'est quand même que les gens viennent acheter un dessin du dessinateur.
Voilà. On pourrait pinailler, quoi. Mais...
On pourrait pinailler, mais voilà, je pourrais plaider les deux. Mais...
C'est ça qui est bien avec le droit.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était pour revenir sur la discussion du créateur qui vient sur une œuvre préexistante. L'hypothèse Goscinny-Maurice est vachement intéressante parce qu'elle a donné lieu à des contentieux qui se sont pas bien terminés pour Goscinny, mais je pense qu'il aurait pu mieux se terminer. Maurice crée Lucky Luke, crée la série et il en fait 3, 4, 5, je sais plus combien. Puis Goscinny arrive, c'est pas une série qui rencontre un succès franc, et d'ailleurs c'est pas terrible, honnêtement. Enfin, moi, en tout cas, je donne mon avis, je suis pas fan des premiers Lucky Luke. Puis d'un coup, Goscinny arrive, et là, ça change de dimension. Les scénarios sont hyper ciselés, les dialogues hyper ciselés, les personnages bien sentis, etc., etc. Et Goscinny va créer les personnages. Alors, il va ressusciter les Dalton, mais c'est dans un livre de Goscinny qui apparaît en temps plan, etc., etc. On va se poser la question de savoir qui est le créateur de ce personnage. Parce que Goscinny, pardon, va dire, mais c'est moi qui ai écrit qu'il y aurait un chien. C'est moi qui ai écrit que le chien serait con comme une tarte. C'est moi qui ai, etc., etc. Et donc il va dire, donc je suis co-auteur de ce truc. Et donc quand vous allez faire un rentemplant, vous allez exploiter mon personnage. Et donc je suis co-auteur du personnage. Et je crois que sa demande avait été rejetée à l'époque. Ils avaient réussi à trouver le fait que Maurice avait eu l'idée d'un chien, etc. Donc il avait perdu. Mais ce qui est très intéressant dans les auteurs qui prennent la suite, c'est qu'ils peuvent créer des œuvres presque autonomes. Ce que je veux dire, c'est que celui qui reprend Batman et qui crée Robin, ou qui crée Batgirl, ou qui crée Batwoman, pardon, ou qui crée un autre personnage, un super vilain tel, celui qui crée le Joker, aujourd'hui, il est le créateur du Joker. Alors, dans quelle mesure il est le seul créateur du Joker alors qu'il l'a greffé, tiré d'un livre préexistant ? Est-ce que Batman est indissociable du Joker ? Je pense que oui, en l'occurrence, mais... ou pas.
Il est devenu, en tout cas.
Il est devenu. Mais le Joker s'est autonomisé. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un film sur le Joker, je ne l'ai pas vu d'ailleurs, mais on pourrait avoir une création avec le Joker sans Batman, sans Gotham. Et alors, à partir de là, est-ce que c'est le créateur de Batman ou c'est le créateur du Joker ? Il se trouve que c'est le même, en l'occurrence, mais qui est le créateur de ce personnage et qui, donc, a un droit de vie ou de mort sur le projet, doit être rémunéré, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est non seulement l'auteur de l'œuvre seconde n'est pas l'auteur de l'œuvre première, il est bien auteur d'une œuvre seconde, mais dans cette œuvre seconde, il y a des œuvres qu'on pourrait isoler en disant, bah, s'il y a ce qu'on appelle un spin-off, C'est-à-dire si on extrait de cette œuvre un élément et qu'on en crée une œuvre à partir de ça, dans quelle mesure l'auteur de l'œuvre première est intéressé à ce spin-off ?
Toujours dans ce cadre-là, quand Goscinny reprend des vrais acteurs, des vrais acteurs de western, ouais. des vrais personnages politiques, des personnages sportifs, je crois qu'il y a Eddie Merckx dans un instant.
Oui, absolument.
Comment ça se passe ? Il peut prendre le personnage, le mettre dans sa BD ? Est-ce que le personnage a le droit de dire moi je veux pas être là-dedans ?
Alors, c'est pas un personnage, justement. Si c'était un personnage, il y aurait des droits d'auteur. C'est une personnalité. Personnalité, pas de droits d'auteur. Je veux dire, oui. Johnny Hallyday n'est pas un personnage, c'est une personnalité. Si on le met dans une BD, c'est éventuellement une atteinte au droit à l'image. Mais son image n'est pas véritablement reproduite. Et par ailleurs, pour le coup, on pourrait se prévaloir, alors là, à plein, de l'exception de parodie. Parce que, pour le coup, ce que fait Goscinny dans les Astérix, quand il reprend Eddie Merckx, c'est de la pure parodie. C'est-à-dire que Merckx n'a rien à faire dans une histoire de Romain ou de Gaulois. Donc il est injecté là-dedans parce que ça se passe en Belgique, et point barre. Et donc c'est parodique. Voilà. Donc là, pour le coup, parodique plus liberté d'expression. Donc là, à mon avis, on est très tranquille. Donc je pense qu'il n'a jamais demandé l'autorisation.
Une autre question qui reprend une problématique qu'on a évoquée au début, c'est le problème des droits qui voyagent, en tout cas des œuvres qui voyagent. Est-ce que les droits sont associés aux œuvres ? Je pense par exemple un éditeur français qui édite un comics américain, qui fait une exposition de planches en France, est-ce qu'il est assujetti aux droits français, on va dire, donc proportionnalité, rémunération des auteurs, ou aux droits américains ? Et il peut faire ce qu'il veut avec, en fait.
Oui, alors, là vous êtes dur, parce que c'est une question, je ne suis même pas tout à fait sûr de la réponse que je vais vous donner comme ça, au pied levé, mais si l'éditeur français tient ses droits de l'éditeur américain, alors l'auteur américain a cédé ses droits à l'éditeur américain en droit américain, et donc l'éditeur américain dispose des droits selon le droit américain. Donc il doit pouvoir concéder à l'éditeur français des droits qui sont soumis au droit américain. Ça, c'est la première chose. Si par contre l'éditeur contracte directement avec l'auteur américain, alors je pense que le droit qui pourrait être applicable est le droit français, et la proportionnalité, etc. Relativement d'ailleurs, parce que si ma mémoire est bonne, il y a une exception précisément dans ces cas-là. Mais en gros, c'est quand même le droit français qui s'applique avec des altérations. Là où il y a un vrai bémol, c'est le droit moral. C'est-à-dire que dans tous les cas, et partout dans le monde d'ailleurs, le droit moral s'applique. C'est-à-dire que le droit moral de l'Américain en France s'appliquera à son œuvre, et celui qui ferait une exposition dénaturante ou qui le ferait, je sais pas, au siège de Marlboro ou au siège d'une entreprise de films porno ou que sais-je encore, l'association pourrait ne pas plaire à l'auteur américain, il pourrait se prévaloir en France de son droit moral. De la même manière qu'un Français peut se prévaloir de son droit moral aux États-Unis pour des exploitations qui porteraient atteinte à son droit moral.
D'accord. Bon, on a fini, en fait.
Ok.
Enfin, on a presque fini. Jean, je vous remercie de ces moments passés avec moi, parce qu'on a abordé plein de sujets passionnants. J'espère que ça va éclairer les auditeurs et les auditrices sur tous les problèmes de droit liés à la BD, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'on peut appliquer toutes ces notions à la musique. Enfin...
Oui, c'est distordu, on les retrouve, avec beaucoup de distorsions, voilà. Mais on les retrouve.
Et
oui.
On y arrive.
Oui, absolument.
Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Merci à vous.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.